Montpellier, sur internet, à la radio, sur votre téléphone et en DAB+, il est 10h sur Radio Aviva. Radio Aviva, le flash info.
Bonjour à tous. Pour Emmanuel Macron, le débat est clos. Il ne se présentera pas au municipal à Marseille. Annonce faite dans une interview à la Tribune dimanche. Le président de la République a répondu à la rumeur d'une candidature dans la cité phocéenne en 2026. Il évoque tout de même une immense affection pour la ville qui a un potentiel extraordinaire. En 2021, le chef de l'État avait lancé le plan Marseille en grand avec de nombreux investissements pour la ville. 86% des Français de confession juive affirment craindre être victimes d'agressions antisémites. Résultat d'une enquête de l'IFOP après l'attaque du 7 octobre en Israël. Les craintes d'agression se sont amplifiées à tel point que 18% des interrogés disent changer leur nom de famille pour des livraisons de repas à domicile. La moitié ne porte plus de signes religieux en public. Le parquet d'Ajaccio ouvre une enquête après une altercation avec Éric Zemmour. Hier, lors de son déplacement en Corse, le président de Reconquête a donné un coup à une femme après avoir reçu un œuf. Il accuse ses agresseurs de faire partie de l'extrême gauche. L'enquête pour violence en réunion devra déterminer qui sont les auteurs du jet d'œuf. Le Kenya et la Tanzanie en état d'alerte. Les deux pays font face au cyclone Idaya. Les vents devraient s'intensifier aujourd'hui et demain. Un cyclone qui arrive au plus mauvais moment. Les inondations et les pluies torrentielles des dernières semaines ont déjà fait plus de 400 morts. Toujours au sujet des inondations, le bilan s'alourdit au Brésil. 55 morts et plus de 70 000 déplacés. D'importantes inondations frappent le sud du pays et la métropole de Porto Alegre. Une situation absolument sans précédent pour le gouverneur local. Un grand loto sera organisé le jour de la cérémonie d'ouverture des JO. La patronne de la FDJ a dévoilé le programme pour Paris 2024. Un tirage de 15 millions d'euros minimum le 26 juillet. Et puis les voitures s'élanceront tout à l'heure en Formule 1. Max Verstappen partira en pole position du Grand Prix de Miami. Hier, la course sprint pour les qualifs était marquée notamment par un accrochage entre Charles Leclerc et Esteban Ocon dans la voie des stands. Bonne journée à tous.
Le DAB+, c'est la radio qui fait sa révolution numérique avec une qualité optimale et des services nouveaux. Passez au DAB+ et appréciez les avantages de la radio numérique gratuite car sans abonnement. Alors n'attendez plus, un poste DAB+, en voilà une belle idée de cadeau. J'aime ma radio en FM, je vais adorer l'écouter en DAB+.
Radio Aviva, à Montpellier, Vendargues et Cournon-Terral, 88 FM, en DAB+, et partout dans le monde, radio-aviva.com. Fragment d'histoire, Algérie, Montpellier, une production de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisée par Radio Aviva.
Rapatriés, harkis, appelés, ils ont vécu en Algérie, y ont laissé leurs racines ou leur jeunesse, puis se sont installés à Montpellier. Découvrons comment les événements ont bouleversé leur vie personnelle et familiale.
Omar Bessaoud, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes docteur en sciences économiques de l'Université de Montpellier et professeur d'agronomie à la retraite. Vous avez longtemps été enseignant-chercheur, au sein du SIAM depuis votre installation dans la région dans les années 90. Toutefois, vous êtes né en 1949 à Marnia, dans la région de Tlemcen. Votre enfance a donc coïncidé avec la guerre d'Algérie, enfance pendant laquelle vous avez peu vu votre père. Celui-ci, militant actif du Parti communiste algérien et responsable fédéral du syndicat des cheminots algériens, a en effet passé beaucoup de temps en prison ou en résidence surveillée entre 1938 et 1959. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la situation de votre famille dans les années 50 à Marnia?
J'ai des souvenirs très lointains, donc dans ce village, parce que c'était à l'époque un village, maintenant c'est plus un village, à 50 km à l'ouest de Tlemcen. Mon père était cheminot affecté à la gare de Marnia. J'ai bien sûr le souvenir de cette enfance. Je suis né en 49, donc la veille de la guerre, mais j'ai très peu de souvenirs. Je me souviens bien sûr de l'ambiance qui à cette époque existait, puisque Moi, les souvenirs de mon père sont très flous, je l'ai très peu vu, puisque il était militant, très actif, par Mons et par Vaud, et puis souvent emprisonné, notamment en 51, et puis après, dès 52, exilé dans la région, une région à l'est de l'Algérie, à quelques kilomètres au sud de Sétif, et puis en 1954, à Biskra, quand le déclenchement de la révolution a lieu, il est à Biskra, il est arrêté le 1er novembre 1954. D'ailleurs, le journal Algérie Républicain que j'ai chez moi, du 2 novembre 1954, signale son arrestation avec des camarades à lui à Biskra. Donc j'ai des souvenirs, oui, de cette ambiance guerre, de soldats qui patrouillaient du côté de notre quartier, de notre rue, notamment de ces soldats sénégalais, robustes, grands, forts, et puis qui nous faisaient très très peur pour nous qui étions enfants. Souvenir également d'accrochage dans le centre-ville, pas très loin de chez moi, où nous étions obligés de nous plaquer à terre pour éviter les balles qui passaient à travers les fenêtres. Hein. Il y a eu des accrochages entre des maquisards de l'armée de libération nationale et puis l'armée française. Voilà un peu l'ambiance... ma foi, absence du père, la guerre, et puis beaucoup de séjours chez mes grands-parents à Tlemcen, dans une ferme chez mes grands-parents. Voilà. Et là aussi, où il y avait souvent le soir des perquisitions et des visites de soldats, 3h, 4h du matin. Où, voilà les souvenirs que j'ai de cette période-là.
Vous avez également, je crois, des souvenirs... assez positif de l'école française.
Alors oui, il faut que je dise une chose, c'est que mon père est en prison dès mai 1955, et puis mon père décide avec ses amis de nous de quitter Marnia et de rejoindre la France, parce que j'avais un frère aîné qui risquait lui aussi quelques ennuis. Et donc, mon frère avait 20 ans, moi j'avais 5 ans, fin 55, début 56. Donc en 1956, on déménage du côté de Lyon, dans un petit village dont je garde un très beau souvenir, Saint-Bel. C'était à quelques kilomètres de l'agglomération lyonnaise, de l'Arbrel, d'un gros bourg. Et c'est là que je suis entré à l'école en 1956-57. Très beau souvenir parce que aucune discrimination, bien au contraire. Fils d'un prisonnier, enfin d'un résistant qui était en... Et donc les instituteurs ou institutrices que j'ai eus avaient un regard formidable. Et puis je découvre l'école, c'est-à-dire quoi? Je découvre la lecture, je découvre les contes, je découvre... les sorties champêtres à la campagne avec mes camarades. Et puis, nous étions très, très bons élèves. C'est-à-dire que ma mère qui était analphabète, hein, ma mère était là derrière à nous suivre. On ne savait pas qu'elle savait ni lire ni écrire, mais on récitait comme si, et dès qu'on avait quelques hésitations, elle nous demandait de recommencer, de relire nos textes et de refaire. Et donc, non, très beau souvenir, parce que autant on pouvait sentir une espèce de discrimination dans l'espace public, dans la vie en Algérie, etc. En France, nous étions considérés comme des autres enfants, sauf qu'on était exilés, qu'on était un peu plus pauvres que les autres, parce que nous ne disposions pas de beaucoup de ressources, en dehors de celles de mon frère qui travaillait dans une usine à Lyon. Et puis, voilà, très beau souvenir. Moi, je crois qu'on a même gardé des relations, puisque... notre directeur d'école est venu nous rendre visite après l'indépendance. Et oui, il est venu nous voir. Et nous avons, moi je me suis, chaque fois que je suis venu en France, j'ai toujours fait un pèlerinage dans ce village, dont j'ai gardé un beau souvenir, où j'ai fait visiter l'école, une toute petite école qui m'apparaissait à l'époque immense, mais qui était toute petite. C'était les yeux de l'enfant. Et non, l'école, que ce soit l'école ou la suite, hein, le lycée français, le lycée français d'Oran, tout ça, le lycée Pasteur, tout ça, ça contribue énormément à ma à ma formation, à une ouverture d'esprit, à la découverte de la littérature universelle, de la philosophie, y compris de la philosophie des Lumières qui nous a tous marqués et qui avait énormément marqué également mon père, puisque dans ses cahiers de prison que j'ai relus 50 ans, 60 ans après, je retrouvais des textes de Rousseau, des textes des citations de Voltaire, des textes, enfin voilà, qui célébraient la liberté, qui célébraient le bonheur, la joie de vivre et des choses comme ça, alors qu'il était en prison. Voilà.
Et vous me parliez également de votre père, vous me l'aviez présenté comme un musulman communiste.
Ah oui, mon père était adhéré au Parti communiste lorsque le Parti communiste algérien fut interdit par le régime de Vichy en Algérie, en 1940. Mon père avait d'abord milité dans des mouvements, disons, nationalistes, ou un mouvement national. Il était très, très lié à Messali Hadj, puisqu'il est de la même région, mon père est de Tlemcen, Messali Hadj également. Il a milité à l'étoile nord-africaine, il a beaucoup fréquenté les oulémas de Tlemcen. Il était très croyant, il m'a dit qu'il avait commencé à faire ses prières, il les a faites jusqu'à la fin de sa vie, à l'âge de 14 ans. Mais à l'âge de 14 ans, dans le collège qu'il fréquentait, il lisait clandestinement dans les toilettes, il lisait l'Humanité. L'Humanité qui appelait à l'époque à la libération de l'Algérie, à l'indépendance de l'Algérie. Quand je dis c'est l'Humanité de 1924, c'est donc 4 ans après la création du Parti communiste français. Et donc il est resté sur cette idée de... le Parti communiste défend l'indépendance, je suis communiste, mais il n'a jamais été ni marxiste, ni athée, ni... voilà, c'est... Mais comme beaucoup de communistes algériens, hein, beaucoup... Tous les camarades de mon père que j'ai connus à l'époque étaient des croyants, allaient à la Mecque, mais étaient militants communistes, convaincus, fidèles à la ligne de leur parti, mais parti national, hein, pas... Voilà, c'était... En fait, il y avait un slogan qui m'a répété souvent quand j'étais adolescent, c'était « Je me suis battu pour le pain et la liberté ». El-Khobzo el-Hurriya en arabe. Et c'était le slogan du Parti communiste, le pain et la liberté. C'est-à-dire allier la justice sociale aussi à l'indépendance. Et il est resté comme ça jusqu'à la fin de sa vie.
Et quand il était libre, donc pas emprisonné, est-ce qu'il avait des rapports avec les Européens d'Algérie, les autres communautés ?
Ah oui, écoutez, le Parti communiste algérien, c'était le creuset de relations interconfessionnelles, ethniques. Il y avait des Européens, des Espagnols, des Français, des Juifs, des Chrétiens, des Cathos, enfin, il y avait de tout. Et j'ai le souvenir de beaucoup de personnes qui passaient chez moi. Bah, par exemple, j'ai le souvenir, c'est un dialogue que j'ai eu avec Henri Allègre dans les années 90. Henri Allègre était passé chez moi à la fin de la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945-1946. Il avait interviewé ma mère, semble-t-il, à la mort de Staline. En 1954, je crois, il avait interviewé, puisqu'il se trouvait à Marlia chez moi. Et voilà, il y a des gens comme Henri Allègre, mais il y a bien d'autres personnes, des Européens, des paysans, beaucoup de paysans. Eh oui, beaucoup de paysans, puisque le Parti communiste de l'époque, dans la région de Marlia à Tlemcen, c'était beaucoup de paysans. Puisqu'il m'expliquait que la voie était entretenue par les paysans, et par le biais du syndicat, il y avait un travail de propagande, un travail politique qui faisait que les paysans adhéraient au syndicat, certains même au Parti communiste, et parmi eux, un imam. Voilà, un imam, voilà. J'ai même eu un oncle maternel qui était très ouléma, très, très religieux, tout ça, mais qui était le correspondant du Parti communiste dans la ville où il exerçait. C'était à Sebdous, à quelques kilomètres de Tlemcen. Il était coiffeur. Alors, il était correspondant du PC alors qu'il était ouléma. Mais, vous voyez, la question religieuse n'était pas... Moi, je sais que chez moi... Je découvre les œuvres de Marx en terminale, première terminale. C'était pas du tout par le biais de mon père. Il y avait ni Marx, ni Engels, ni Lénine, ni rien du tout. Quoi. Je veux dire, ces lectures étaient des lectures plutôt religieuses. À côté, bien sûr, la littérature française, universelle, etc. C'était quelqu'un qui lisait beaucoup.
Est-ce qu'il y a un événement du conflit qui vous a marqué plus que d'autres ? Peut-être l'arrivée du général de Gaulle, peut-être...
Non, il n'y a pas... Non. Il y a deux ou trois événements qui ont marqué mon enfance. c'est l'arrachement, c'est-à-dire le départ à partir d'un bateau, la traversée Oran-Marseille. Ça, je m'en rappelle parfaitement. Le deuxième événement qui nous a marqués tous, c'est l'assassinat de mon oncle. J'avais qu'un seul oncle paternel. Il a été assassiné devant chez lui, après avoir subi pendant près d'un mois la question, la torture. Il était complètement... Un de mes cousins qui était avec lui me disait, j'étais obligé de l'assister pour qu'il aille aux toilettes, parce qu'il avait les clavicules cassées, il avait les bras, enfin bref. Et puis, il a été criblé de balles devant chez lui un soir. 40 balles d'impact. Oui, c'était... ça, c'est un événement qui nous a marqués, qui a beaucoup marqué mon père, parce qu'il n'avait qu'un seul frère, auquel il était très lié, c'était son jeune frère. Et puis le troisième événement, bien sûr, c'est l'indépendance. L'indépendance. C'est curieux, on a toujours... Moi, j'ai vécu la guerre, et je rappelle un peu ma mère qui tricotait des drapeaux algériens, des choses comme ça. Et puis on a toujours été bercés par, si vous voulez, les événements. Mon père croyait beaucoup dans l'indépendance. Il disait toujours, on sera indépendant, on y arrivera. Et donc, on a vécu ça comme... la guerre, on l'a vécu comme un espoir de liberté. Et quand la liberté était arrivée, c'était en 5 juillet 62, ça a été l'un des événements les plus marquants de notre vie, et j'ai eu la chance donc de vivre, peut-être sur plan historique, je suis un enfant de la guerre, mais je suis un enfant témoin de l'indépendance algérienne, et là c'est un événement historique, inédit, qui c'est un événement qu'on ne refait pas, et qui marque l'histoire du pays. Juillet 62, ça marque l'histoire du pays. J'avais presque 13 ans, je suis de septembre 49.
Justement, voilà. Vous pouvez peut-être nous raconter cette journée du 5 juillet de la fête de l'indépendance avec vos yeux d'enfant.
Oh, vous savez, quand on arrive à Mardia, on est rentré, c'était peut-être quelques jours après l'indépendance. Mon père, c'était bien entendu des visites qui venaient de partout, qui venaient lui rendre visite parce qu'il ne l'avait pas vu depuis le début de la guerre. Toute la famille ne l'avait pas vu à la suite de ses emprisonnements successifs. Il a vraiment, c'est quelqu'un qui a traversé une période, mais c'est très curieux, très très curieux. Il m'a raconté, et j'ai même visité récemment, parce que je suis en train de ramasser des éléments d'histoire familiale, j'ai visité les lieux de résidence, c'était des lieux incroyables, quoi. Je veux dire, il fallait 2 jours de train pour se rendre, lui rendre visite, c'était à la frontière tunisienne, et même pas, je veux dire, au nord, c'était tout à fait au sud, il fallait descendre, c'était en 38. Je ne sais pas, c'est...
Mais en juillet 62, c'est les
fermes... En fait, c'est un de mes deux cinéastes préférés avec David Lynch depuis très longtemps. Pourquoi il est important, l'histoire du cinéma? Je peux vous dire pourquoi il est important pour moi. En tout cas, c'est un cinéma qui ressemble à aucun autre. Il change le rapport qu'un spectateur peut avoir avec un film. Il vit différemment dedans, il respire différemment dans un film de Rivette. La différence de rythme, évidemment, de tempo, il n'est pas le seul à avoir fait des films un peu plus longs, mais les siens... ont une qualité de jeu, les acteurs dedans, on a l'impression de les voir vivre en fait. Et donc ça brouille la distance qu'on met d'habitude avec un film, on quitte l'idée de suivre un récit et on habite un espace avec les personnages. Et comme c'est des films très mystérieux, qui sont remplis d'énigmes, ça peut être vraiment très fascinant. Moi, c'est des films que je passe peu de temps sans revoir.
Combien de fois vous avez revu Un Mont Fou, par exemple?
Oh, je l'ai vu 20 fois, 25 fois. Et pour une bonne raison, c'est qu'il n'était pas disponible facilement. Sinon, j'aurais vu 200 fois. L'événement qu'on représente cette édition, c'est que le film a été remasterisé. En fait, il avait disparu. On pensait qu'on ne trouvait pas de négatif. Je crois qu'ils sont partis du marron pour pouvoir refaire un négatif et ressortir L'Amour Fou. Moi, je le voyais avant dans une espèce d'édition toute pourrie, un pirate vraiment absolument dégueulasse. Et le son était tellement pourri qu'on distinguait à peine ce qui se disait. Donc c'est pour ça que je le voyais moins souvent, parce que j'avais vraiment du mal à me mettre dedans. Mais depuis que le film a été remasterisé, je l'ai vu plusieurs fois en salle et je l'ai vu à un nombre... importante fois aussi en DVD et en Blu-ray.
Alors, est-ce qu'on peut donner pour les spectateurs, les auditeurs qui ne l'auraient pas vu, le pitch de ce film ?
Tout à fait. C'est l'histoire d'un metteur en scène et d'une actrice, Sébastien et Claire, qui en fait travaillent sur normalement une pièce qui s'appelle Andromaque de Racine. Et alors qu'ils sont en train de répéter cette pièce, qui est à ce moment-là filmée par une équipe de télévision, ils se prennent le nez sur une réplique. Claire décide d'abandonner la pièce. Elle doit se jouer dans moins d'un mois. Sébastien la remplace immédiatement et on suit le récit à la fois de la préparation de cette pièce de théâtre avec Sébastien et son équipe de théâtre et l'équipe de tournage à la télévision, et de l'autre côté Claire qui est dans une recherche solitaire qui frôle la folie et qui est comme une sorte d'enquête infinie sur tout ça. Et ils se retrouvent le soir et en fait on voit leur amour se défaire lentement. C'est un amour malade qui les met tous les deux dans un état de passion dévorante et destructrice.
Alors vous aviez écrit un livre, Sic amour, sic comment, je crois, sur cette thématique.
Oui, absolument.
Donc ça rejoint un peu vos champs de recherche sur les rapports hommes-femmes
dans... En tout cas, Rivette était très présent dans Sic comment, sic amour, même si le personnage principal était Shakespeare. Bien sûr, Rivette est un grand cinéaste du sic amour dans un certain nombre de films. Mais celui-là, c'est le plus programmatique, on va dire, sur ce sujet-là.
Alors peut-être dire un mot des acteurs qui sont des Bulogier, je crois, et Jean-Pierre Calfon.
Bulogier et Jean-Pierre Calfon, ouais. Qui sont là très très jeunes, que Rivette avait découvert dans la troupe de Marco. Ils avaient fait un film avant qui était Les Idoles, à partir de la pièce de Marco, Les Idoles. Rivette les voit, il tombe amoureux d'eux, et je comprends très bien pourquoi, parce que c'est parmi les acteurs les plus beaux du monde. Ils sont exceptionnels. Et leur relation dans ce film est absolument exceptionnelle, parce que c'est un film qui est aussi rempli de moments où les acteurs se mettent en dérive, ils se mettent en danger, ils sont au bord de l'improvisation, au bord du burn-out même, et ils sont aussi des fois d'une drôlerie absolument hallucinante.
Alors, quel sens aurait ce film aujourd'hui ? Vous aimez bien faire des rapports avec la culture populaire, l'ère du temps. Qu'est-ce que ça nous apprend aujourd'hui ? En quoi ce film est-il toujours actuel ou pas dans le...
Sur plusieurs points. Le point le plus évident, celui sur lequel on peut tous se retrouver par rapport à ça, c'est que Rivette est le réalisateur de l'émancipation féminine. Alors, dans ce film-là, c'est une femme seule, mais qui doit s'émanciper d'un metteur en scène qui ne la prend pas à sa mesure, et d'un amour qui la détruit. Mais dans tous ses films, les personnages principaux seront des personnages féminins. Et il va devenir le cinéaste de la sororité avec Céline et Julie vont en bateau. Et les grandes actrices qui traversent le cinéma de Rivette sont aussi des collaboratrices. C'est-à-dire que la plupart du temps, elles coécrivent les scénarios, elles inventent leurs personnages. Ça, c'est un premier point et c'est un point assez évident. Un deuxième point qui est peut-être moins évident mais qui est très important, c'est aussi le cinéaste de l'émancipation du cinéaste. C'est-à-dire que dedans, les acteurs prennent en charge le film. Le réalisateur disparaît derrière les acteurs. On est dans un cinéma où le point de vue se retrouve diffracté de telle sorte qu'on a moins l'impression de voir un film dirigé par quelqu'un que d'être dans la captation d'un récit en train de se faire. Et ça, ça libère le spectateur aussi. Et ça donne une place au spectateur qui est absolument unique dans l'histoire du cinéma, où le spectateur vit le film avec les acteurs, il le vit comme un morceau de vie vécue.
Voilà. Et toujours un rapport au secret ou au complot dans ce film-là, ou pas trop ?
Non, le rapport au secret et au complot qui apparaît dans son premier film, Paris nous appartient, va revenir dans Out, qui va suivre immédiatement L'amour fou. Out fait la synthèse, il y a un côté dialectique chez Rivette, et Out fait la synthèse entre Paris nous appartient et ses intrigues politiques, et L'amour fou et son rapport au temps.
Voilà. Donc du coup, tous ces films sont réédités aussi chez Potemkin. On peut quasiment revoir tout Rivette aujourd'hui, finalement.
Presque. Il en manque une poignée qui n'ont pas encore été remasterisés. Mais on va dire que les trois quarts des films de Rivette sont disponibles entre chez Carlotta pour quatre d'entre eux et Potemkin pour une quinzaine d'autres.
Alors très rapidement, pour conclure notre discussion, les trois films de Rivette, comme ça, qu'il faudrait voir en plus de celui-là pour avoir saisir le personnage.
Il faut absolument voir Céline et Julie vont en bateau, qui est un très très grand film de magie et d'amitié. Il faut voir Out 1, qui est vraiment le très grand film politique de l'après 68. Et il faut voir, à mon avis, absolument La Bande des Quatre, qui est un film qui reprend toutes les questions à la fois liées au théâtre et à la politique qui ont agité Rivette des années 70 aux années 80 et qui les présente aux années 90 pour la suite. Et qui a aussi un immense film d'amitié.
Et on peut lire votre dernier opuscule où il est question de Jacques Rivette, peut-être donner le nom et l'éditeur.
C'est Le secret de la société aux presses universitaires de France et Jacques Rivette est dedans le personnage principal.
Voilà, et on peut retrouver Pacôme Thielman dans un bonus de plus de 60 minutes pour la réédition de L'amour fou chez Potemkin. Merci Pacôme.
De rien.
Mais si tu dépenses pas, grand chef, si tu dépenses rien, t'es quoi, hein, t'es quoi?
J'aime retourner dans le noir et contempler le visage des autres spectateurs.
C'était Cinéculte pour redécouvrir les grands classiques du cinéma.
Éclectique, Radio Aviva. Xavier Nataf.
Retrouvez-moi tous les jours à 14h pour 30 minutes coups humains de recommandations culturelles, de portraits au long cours, de collages sonores et de musique éclectique.
We had life in our eyes and the world was on our side. Speeding along with no map, it was all green lights. It was just you and I. When something dies doesn't mean that it's over. We're not like them, we don't have to be cold as ice. We could be you and I. So take my hand for the last time and find my eyes with yours. I'm all out of fight. My heart will always know your name. I'm all out of love. But look at all the love we made. I'm all out of life. Oh, babe, it's killing me to say. I'm all out of love. I'm all out of life. I'm all out of fight. We were two broken parts from the same old junkyard, battered and bruised, and we tried so goddamn hard to be you and I. I'm proud of us, babe, 'cause we held through the pain, and when everything hurt, we still ran through the rain and the night. That was you and I. So come here close for the last time. Put your
Superman, la célèbre scénariste et réalisatrice, aussi bien de fiction que de documentaire, qui va nous parler de ses projets et de sa façon de fonctionner, qui est assez singulière. Yolande Zuberman, bonjour, merci d'accepter cette interview. J'aimerais, puisque j'ai la chance de vous rencontrer, vous poser tout un tas de questions, mais vous laisser surtout la liberté de vous présenter, de nous parler de votre façon de travailler.
Bonjour. Alors, en fait, ma façon de travailler, c'est que les documentaristes, et c'est certainement les gens les plus heureux du monde à cause de ça, cette façon d'explorer, d'investiguer. Moi, comme je ne crois que ce que mes yeux me disent, comme j'ai du mal à croire, j'ai jamais cru le discours politique. Et puis j'ai jamais cru. Vous savez, mes parents, ils ont connu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et donc moi, quand